19h05 sur RTN, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous le savez, les élections communales auront lieu le 13 mai. Et ce soir, c'est au Val-de-Ru que nous nous rendons, plus précisément au restaurant de la Croisée à Malvilliers, pour faire le point avec les candidats du Val-de-Ru.
Spéciale élection.
En compagnie de Sarah Massy, bonsoir.
Bonsoir. Des communales un peu spéciales cette année dans le Val-de-Ru, puisque seules deux communes vont élire leurs autorités. La commune fusionnée est Valangin. À Valangin, les enjeux sont nuls puisque les élections sont tacites. En revanche, tout reste à faire pour la nouvelle commune de Val-de-Ru. 118 candidats se présentent pour voir les 41 sièges du Conseil Général. Ils sont issus de cette formation, le Parti Libéral Radical, les Jeunes Libéraux Radicaux, le Parti Socialiste, le Parti Démocrate Chrétien, l'Union Démocratique du Centre, les Verts et le groupe des Indépendants du Val-de-Ru. Les 41 membres du Conseil Général vont ensuite élire le Conseil Communal. Les nouvelles autorités vont entrer en fonction le 1er janvier 2013. Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes en direct jusqu'à 20h du restaurant de la Croisée à Malvilliers avec un candidat issu de ces formations. Le débat va se dérouler en deux phases, quatre candidats pendant la première demi-heure, puis nous entendrons les trois autres candidats. À tout moment, le public peut intervenir pour poser des questions aux candidats. Pour cette première partie de débat, nous recevons l'UDC Daniel Aldiman. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de Savanier, vous avez 42 ans, vous êtes marié, vous avez deux enfants, vous êtes député au Grand Conseil et vous êtes employé fédéral aux douanes.
Oui, tout à fait.
Claude-Henri Chalère représente le Parti Libéral Radical. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de chez Saint-Martin, où vous êtes conseiller général. Vous avez 48 ans, marié avec deux enfants. Et vous êtes secrétaire général du département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel. Le socialiste Armand Blazer est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller communal à Fontaine-Melon et député au Grand Conseil. Vous avez 59 ans, vous vivez en couple et vous êtes ingénieur ETS en électrotechnique. Enfin, Laurent Debroux représente les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 54 ans, vous venez de Fontaine-Melon, vous êtes marié avec quatre enfants, vous êtes député au Grand Conseil. Vous avez aussi siégé en tant que conseiller communal à Rochefort. Vous êtes agriculteur de formation et vous travaillez actuellement comme indépendant dans la communication d'entreprise. Alors, une nouvelle commune, ça veut dire que tout reste à faire. Alors, comment est-ce que vous imaginez la commune de demain? Peut-être en deux mots, Daniel Aldiman.
Alors, en ce qui concerne l'UDC, nous voyons la commune d'une manière assez simple, dans le sens que nous ne voulons pas non plus avoir une commune qui soit répartie sur de nombreux sites au niveau de l'administration. Il faut que ce soit assez concentré, il faut que ce soit efficace, efficient surtout. Et le but, ça serait aussi de reprendre certaines tâches qui sont dévolues actuellement au canton et les reprendre au niveau communal, telles que par exemple les permis de construire.
Claude-Henri Chalère, vous partagez la description?
Alors, en partie, nous miserons aussi pour le PLR sur une commune qui est proche des habitants de la commune, avec des prestations de qualité, des prestations dont a besoin la population, des prestations aussi au coût le plus bas possible. Nous voulons aussi une commune dynamique qui offre des perspectives d'avenir à la population. Nous voulons aussi une commune influente qui soit capable de peser dans les grands débats cantonaux qui nous attendent ces prochaines années.
Les Verts, Laurent Debroux, vous avez aussi la même vision?
Écoutez, moi je suis très heureux de recevoir ces jours les prospectus, les flyers des différents candidats ou partis, et puis je découvre finalement qu'on est relativement proches les uns des autres, et puis c'est pas tout à fait par hasard, parce que j'observe que il y a toute une dynamique qui s'est créée avec la fusion de la nouvelle commune, où les gens ont dû se mettre ensemble pour imaginer cette nouvelle commune, et puis ça a créé des synergies que je trouve assez intéressantes sur l'avenir de la commune, et puis je me réjouis de mettre en place toutes ces synergies-là, cette participation de la population pour créer une région, une nouvelle commune, le plus écologique possible, évidemment, puisque je suis...
Évidemment. Armand Blazer, vous avez le même avis, tout
alors
le monde est un peu d'accord?
Le quatrième à s'exprimer, tout a souvent été dit. Hein. Oui, même vision, nous voulons être proches des habitants, ça signifie non seulement avoir des services proches de la population, mais être à l'écoute de la population. Ça va appeler à notre sens de trouver des manières, au-delà des décisions prises par un conseil général, d'avoir des réunions occasionnelles dans les différents villages qui constituent la commune pour écouter la population. Alors, et Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est pas seulement une commune qui, administrativement, elle aura beaucoup de travail au début, se développera, mais avec des visions assez stimulantes.
Vous êtes exprimé en dernier pour présenter votre vision de la nouvelle commune. Au niveau de l'organisation, peut-être qu'on va vous donner la parole en premier. Comment vous voyez l'organisation de cette future commune éclatée sur plusieurs centres, un seul centre? Comment vous voyez la chose?
Alors là, nous sommes tenus quand même par ce qui a été dit à la population au moment de la campagne en faveur de la fusion. Les gens ont pris connaissance directement d'une convention de fusion ou bien des extraits de cette convention de fusion. Et en termes de services, on dit dans cette convention que les services à la population seront répartis en 3 et 4 sites. Donc ça serait malvenu de dire aujourd'hui qu'il en faut 12, comme il serait malvenu de dire qu'il en faut 2. Je pense que au-delà de ces 3 ou 4 sites qui offriront des services à la population, nous devons trouver moyen de faire des services à domicile pour les personnes qui ont une mobilité réduite. Alors voilà pour ce qui est de la structure. Ensuite, c'est clair qu'une commune doit se structurer en dicastère, et puis ces dicastères devront au fond gérer les différentes activités de la commune. Hein. C'est peut-être un peu tôt d'entrer dans le détail maintenant.
D'accord. On a voté sur une convention de fusion. 3 ou 4 sites, c'est réaliste?
Très réaliste. Vous savez, bon, un des éléments, c'est de disperser dans le territoire. Je crois qu'on le dit que ça doit être réparti. Donc, 3 ou 4 sites qui se trouveraient sur la ligne Chézard-Saint-Martin, Cernier, Fontaine-Melon, Léo-Genevet, c'est bien 4, mais ça ne respecterait pas du tout l'esprit voulu par la Convention. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire parce que ça doit, d'une part, faire l'objet d'une discussion entre les différents membres qui constitueront l'exécutif, qui ensuite feront des propositions aux législatifs. Et pour pouvoir planifier tout ça, il faut faire une estimation des locaux à disposition, de leurs forces et faiblesses, et puis c'est un ensemble d'éléments qui permettront de se déterminer.
Laurent Debrot, vous, pour l'hiver, vous misez aussi sur une participation de la population. Expliquez-nous un petit peu comment vous voyez les choses.
Bon, on souhaite que toute la démarche, je viens de le dire tout à l'heure, toute la démarche qui a été instituée avec sur la fusion de communes puisse continuer aussi à l'avenir. Et par exemple, on pourrait imaginer le développement d'un agenda 21 local, qui est justement une démarche participative qui se pratique maintenant. C'est une technique de gestion institutionnelle qui se pratique au niveau mondial. C'est tout à fait adapté justement pour les institutions locales. Et là, on doit redéfinir ou imaginer notre commune avec la population. Et je pense que c'est quelque chose de très important, et pas seulement le conseil général, et en tout cas pas seulement le conseil communal. On est aussi assez attentif à éventuellement, je pense, pour 15 000 habitants, la création d'un parlement des jeunes pourrait éventuellement être envisagée. Je pense que ce serait une bonne solution aussi pour intégrer la population, et particulièrement les jeunes, dans la vie politique de la commune.
Claude-Henri Chalère, vous êtes d'accord avec ce qui se dit?
Écoutez, absolument, je crois que des engagements ont été pris dans la convention de fusion. Il faut encore savoir ce qu'on met dans ces centres. Parce que je crois aussi que les usagers n'aiment pas être baladés d'une prestation à une autre. Si on vous dit d'aller pour telle chose à Cernier, pour une autre chose, on vous dit d'aller au Genevet-sur-Cofrane, pour une autre, on vous dit, ben non, c'est à Villiers que vous trouvez votre réponse. On ne pense pas, du côté du PLR, que c'est une bonne solution. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà de savoir, au fond, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces 4 sites. Et puis, pour pouvoir le savoir, eh bien, nous nous proposons de constituer des groupes d'usagers représentatifs de tous les usagers possibles, jeunes, vieux, personnes qui ont une mobilité réduite. Enfin, essayer de constituer des panels qui nous aident à nous dire qu'est-ce qu'on va mettre dans ces sites. Parce qu'au fond, l'enjeu, il est là. Si on veut que la commune soit réellement au service de la population, il faut éviter de balader les gens d'un site à un autre. On se rend compte d'ailleurs dans beaucoup de domaines publics que c'est comme ça qu'il faut essayer d'organiser les choses, en nous mettant à l'écoute des usagers, en essayant véritablement de répondre à leurs besoins.
Justement, peut-être il y a des prestations qui, si on doit aller à Cernier, c'est pas un souci. Par contre, pour d'autres prestations, par exemple le ramassage des déchets.
C'est typiquement le ramassage des déchets est typiquement le genre de choses, ou plutôt même le tri qui a été instauré, est typiquement le genre de problème qu'on aurait dû définir comme ça. On se rend compte par exemple que dans certaines communes, on a maintenu des heures d'ouverture des déchetteries le matin, alors que monsieur et madame travaillent de plus en plus dans le couple, quand on n'a pas affaire à des couples divorcés où malheureusement les gens doivent travailler, n'ont plus le temps de s'occuper de leur ménage. Pourquoi pas imaginer là peut-être des horaires plus étendus le samedi, des horaires en début de soirée qui répondent véritablement aux besoins des gens. Tout cela, c'est un exemple symptomatique de ce qu'on n'a pas réussi à faire avec la vitesse à laquelle on a dû mettre en place le nouveau système de triage des déchets. Il y a d'autres exemples qu'on peut citer. Pourquoi pas non plus organiser certaines prestations avec le canton? Quand un contribuable veut s'implanter quelque part, pourquoi ne pas nous arranger pour que la commune organise un rendez-vous avec les experts fiscaux que nous avons à la Chaux-de-Fonds pour pouvoir répondre aussi à quelques questions particulières. Je crois que l'accueil, le soin que nous mettrons pour que les usagers se sentent heureux dans cette commune est pour nous un objectif central.
J'imagine que du côté de l'USDC, on veut aussi des citoyens heureux. Alors comment vous la voyez, vous, cette administration centralisée sur 2-3 pôles? Où est-ce qu'il faudrait les mettre? On peut aussi revenir sur la question de l'accessibilité.
Alors tout à fait, mais tout d'abord j'aimerais parler d'une chose, c'est juste de dire qu'il faut être pragmatique. Il faut quand même voir ce qui s'est passé à Val-de-Travers. Val-de-Travers avait aussi offert des services à domicile à la population et il se trouve que maintenant ils sont revenus en arrière, faute simplement de demandes d'utilisation de la part des citoyens. Ils ont aussi au début eu plusieurs pôles au niveau des administrations. Il se trouve que maintenant ils sont sur 2 sites. Donc je crois qu'il faut aussi bien se mettre au service de la population, mais ne pas non plus exagérer sur le nombre de sites. Il faut rester tout à fait pragmatique. Quant à évidemment les déplacements qui doivent se faire à ces différentes administrations, il est évident que du secteur où j'habite, dans le secteur où j'habite à Savagnier, on est très mal desservi, c'est le moins qu'on puisse dire, vu qu'il faut presque descendre sur Neuchâtel pour remonter à Cernier, donc c'est vrai que c'est assez catastrophique. On espère que ça va changer avec les nouvelles autorités, qu'on aura un peu plus de poids au niveau des transports en commun. Il faut aussi ne pas oublier le fait que on se rend quand même très très rarement dans une administration communale, tout au plus une à deux fois par année, et encore. Donc,
vous abordez la question des transports. En ce moment, on parle beaucoup du Transrun avec une halte à Cernier. La population sera amenée à se prononcer là-dessus. Est-ce que le Transrun pourrait faire de l'ombre, justement? Est-ce que vous craignez que le Transrun fasse de l'ombre aux autres liaisons du Val-de-Ru?
Non, alors je ne pense pas du tout que ce soit que ça fasse de l'ombre aux autres liaisons. C'est quelque chose qui serait complémentaire. À ce sujet, au niveau du Transrun, moi je serais pour au niveau de l'UDC, on serait pour une solution qui soit aussi la plus efficace possible. Malheureusement, qui a un certain coût, ça serait de faire une liaison souterraine, avec une gare souterraine à Cernier, et pas un passage simplement en voie libre, parce qu'on sait que dans le Val-de-Ruy, il y a quand même pas mal de neige l'hiver aussi. Et les expériences du M2 à Lausanne ont démontré que les secteurs ouverts posent quelques problèmes.
Laurent Debrot, pour les Verts, plutôt ouvert ou RER?
Ouvert, évidemment, on est tout à fait satisfait de cette solution-là, puisqu'on l'avait déjà proposée en 1970, sauf erreur, en opposition ou en complément au tunnel routier. Donc on est ravis que ce projet-là arrive enfin à se concrétiser. Il faut reconnaître que le jour où on a une nouvelle super gare, parce que ce sera vraiment une super gare, hein, qui se trouvera à une heure de Genève, par exemple, le jour où on a cette super gare à Cernier, il y a tous les transports publics de la vallée qui vont s'orienter dans cette direction-là. Et puis tout est imaginé, il faudra tout construire. Et puis là, on aura un énorme travail à faire.
Donc le Transrun pourra dynamiser le réseau des transports publics dans le Val-de-Ruy?
Il va surtout l'orienter et puis effectivement la diriger. Et puis c'est autour de ce noyau-là que les transports publics vont probablement se dessiner.
Armand Blazer, la question de la mobilité dans cette nouvelle commune, c'est une question centrale.
C'est une question centrale parce qu'on peut bien imaginer que, comme on l'a dit, les services ou bien des offres culturelles ou d'autres activités de la population seront réparties dans les différents villages. Et si on veut que ça fonctionne bien, il faut avoir un système de transport qui fonctionne bien. Alors, on peut parler naturellement de l'arrivée possible du Transrun en 2023. Le Parti socialiste y est favorable. juste en passant, aussi avec l'idée d'un parcours en souterrain dans le Val-de-Ruz, mais pas tant pour les problèmes de déneigement de la voie ferrée, mais plus pour préserver les terres agricoles et préserver la belle image du centre du Val-de-Ruz. Mais indépendamment de ce RER, il nous faudra organiser, et il y a des plans qui sont déjà en cours d'élaboration, un transport par bus qui fonctionne bien. Et l'enjeu, ce qui ne fonctionne pas actuellement, ce sont des bus qui relient à la fois le flanc nord et le flanc sud de notre commune. C'est techniquement sans aucune difficulté, il suffit de le décider.
Il suffit de le décider, Claude-Henri Chalère, pour le Parti libéral radical. Transrun, c'est une obligation pour dynamiser le Val-de-Ruz?
Alors écoutez, d'abord, le débat sur le Transrun ne fait que commencer. Je crois que la population du Val-de-Ruz est déjà appelée le 13 mai à élire ses autorités. Donc pour moi, avec ou sans Transrun, nous devons complètement repenser les transports dans cette commune. C'est pas uniquement repenser les transports publics, c'est également repenser les transports motorisés, trouver des alternatives intelligentes au trafic individuel qui nous pose quand même certains soucis. On le voit simplement avec la politique que mènent les centres-villes aujourd'hui. C'est peut-être aussi penser les mobilités douces. Nous avons un réseau de pistes cyclables qui est encore très lacunaire, donc nous avons toute une série de réflexions à faire de ce côté-là. Et avec ou sans Transrun, les transports au Val-de-Ruz, comme l'ont dit d'ailleurs mes préopinants, sont tout à fait centraux. Mais je crois qu'il ne faut pas uniquement voir le domaine public, il faut voir le tout. Et si on veut véritablement une commune dynamique, il faut que les autorités communales soient capables de faire face aussi bien aux défis qui se posent aujourd'hui avant le Transrun, peut-être qu'un jour, qu'aux défis qui se poseront après le Transrun. Moi, je suis aussi persuadé que ça peut apporter une certaine dynamique, mais cette dynamique, nous pourrons d'autant mieux la gérer si nous avons des autorités fortes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont vraiment au service et à l'écoute de la population et qui sont capables de peser dans les débats cantonaux qui nous attendent.
Transrun, un projet qui coûte très cher. On va parler évidemment de la fiscalité. Le peuple a voté sur une commune avec un coefficient fiscal de 61, soit le plus bas de toutes les communes qui se sont réunies, à l'exception de Fontaine-Menon. Est-ce que c'est réaliste, Daniel Haldimann? Est-ce qu'on va pouvoir maintenir ce 61?
Alors, si on fait attention à ce qu'on dépense, c'est clair que c'est réaliste. Mais alors évidemment, il ne faut pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre et vouloir faire des choses démesurées. On doit d'abord, la toute première chose à faire dans la nouvelle commune, c'est de garantir déjà, ce qu'on a déjà dit, c'est les prestations qui doivent être garanties à la population, mais on doit le faire de manière efficiente. Donc si on le fait de manière efficiente, on va rationaliser les coûts, on va baisser certainement les coûts. Il y aura certaines choses aussi à bien réfléchir, à ne pas faire comme le Val-de-Travers avait fait, par exemple, au niveau des camions de ramassage ou autres, enfin des appareils de voie, de voirie qui était sur un seul centre, ce qui faisait que un cantonnier devait prendre sa balayeuse à un endroit de la vallée pour ensuite traverser toute la vallée à 20 à l'heure pour ensuite aller faire un travail sur un site. Donc ça, c'était des choses qu'on doit absolument éviter de faire dans la nouvelle commune.
Donc vous allez pouvoir prendre exemple sur Val de Travers pour ne pas faire les mêmes erreurs et peut-être faire mieux.
Oui, marqué comme chose du PLR. J'aurais une question pour revenir un peu sur le Transrun, où j'ai entendu des parties parler d'un Transrun souterrain. J'aimerais bien qu'ils me répondent qu'est-ce qu'ils pensent au niveau du financement, puisque d'après les chiffres qu'on connaît, le passé en souterrain, c'est une augmentation d'environ de 70 millions de francs de ce coût du Transrun.
Alors, qui veut réagir? Armand Blazer?
Oui, volontiers. Donc le chiffre articulé est juste. Dans le rapport du Conseil d'État, on parle aussi de 30 à 70 millions. Ce n'est pas uniquement la partie de la voie ferrée qui crée un surcoût, mais dès l'instant où on est en souterrain, la gare prévue à Cernier doit être enterrée plus profondément et ça a un coût supplémentaire. Alors, je dois dire, pour avoir étudié avec soin ce rapport lié au RER, de faire partie des commissions du Grand Conseil qui traite de cet objet, qu'on a un certain nombre de montants quand même qui sont un petit peu à la louche. Donc les 70 millions, c'est un ordre de grandeur, ça me paraît être un montant maximum. Et il est vrai que selon les retouches qu'on fait à ce projet, puis qu'on ajoute 50 millions ici, 70 millions là, puis 20 millions ici, etc., le milliard va être dépassé et puis la population doit dire non. Donc on doit être très attentif à ce qu'on demande, on en a conscience, mais il faut aussi savoir qu'on construit pour 150 ans. Hein. La ligne actuelle, on a 1858, il faut qu'on fasse les calculs, mais c'est-à-dire qu'il y a 154 ans que cette ligne nous rend service en ayant été améliorée. Et puis, il faut pondérer le surcoût avec un plus qui sera favorable pour les générations futures pendant une centaine d'années. Donc, La réflexion doit être menée, mais ce que nous demandons, en tout cas dans un premier temps, si ça ne se fait pas en souterrain, le Parti socialiste de Val-de-Rhin ne va pas dire non au Transrhône, mais ça doit mériter une meilleure appréciation. Il y a encore derrière des questions liées à la pente, à la régularité de la pente, qui montrent qu'un tracé en souterrain pourrait être favorable. Donc c'est une attente. Mais de là à dire nous voulons ça, sans ça, ça sera non, c'est en tout cas pas la position du PSVR.
Peut-être revenir sur la fiscalité. Hein. On parle beaucoup hein, maintenant du manque d'impôts des personnes physiques. Donc, est-ce qu'il faut faire venir à tout prix des habitants dans le Val-de-Ruz ? Est-ce qu'il faut absolument créer des emplois pour amener de nouveaux contribuables, Laurent Debroux ?
Pour nous, ce n'est pas une priorité. La promotion économique n'est pas une priorité si elle n'est pas intégrée avec le tissu social de la commune. On n'est pas intéressé pour avoir des super grandes entreprises qui viennent s'implanter chez nous, qui attirent artificiellement à la fois des pendulaires et à la fois des habitants qui réclameront leur petite villa dans tous les villages de la région. Je pense que des entreprises qui s'implantent chez nous, elles doivent respecter des règles sur leur emprise au sol, leur impact sur la mobilité de la région, aussi leur intégration dans le tissu et social de la région. Donc pour nous, ce n'est pas une priorité absolue. La priorité pour nous, c'est de maintenir de l'emploi dans les communes, déjà des entreprises qui existent déjà, et il y a des entreprises qui pourront se développer avec l'activité ordinaire d'une commune, et ça nous réjouit déjà, passablement.
Claude d'Henri Chalère, vous êtes d'accord avec cette vision ou vous...
Alors, nous ne la partageons pas totalement. On peut comprendre effectivement qu'il faille préserver l'environnement. Je crois que personne n'a envie de remplir le Val-de-Ruz de villas et d'usines. Mais nous ne partageons pas tout à fait la même vue parce que notre canton a déjà mal à ses forces vives. Il a mal à sa démographie. Nous sommes dans un canton qui vieillit. Le Val-de-Ruz est peut-être la seule région qui tire son épingle du jeu. Mais pour combien de temps ? Nous nous sommes plutôt d'avis qu'il nous faut, grâce à un développement territorial en adéquation avec les objectifs économiques et sociaux, essayer véritablement de maintenir une démographie attractive, donc attirer et accueillir de nouveaux habitants, non seulement pour le bien de Val-de-Ruz, mais aussi pour le bien du canton. Et nous devons également essayer d'attirer de nouvelles entreprises. Ça ne veut pas dire mettre des entreprises partout. Nous avons la chance d'avoir déjà aujourd'hui 4 pôles industriels dans le Val-de-Ruz. Pensez aux Genevay-sur-Cofrane, Dombresson, Fontaine, Fontaine-Melon. Si un jour le Transrhône se réalise, pourquoi ne pas imaginer un pôle pour des activités de type tertiaire à proximité de la gare ? Et essayer là aussi de trouver des solutions parce que notre canton n'a pas non plus des terrains à l'infini pour pouvoir se développer. Donc en concentrant certainement les zones construites, mais en essayant aussi d'avoir une politique dynamique et attractive, essayer aussi de capter cette richesse qui, si nous ne la gardons pas, partira ailleurs, ce qu'elle a déjà beaucoup trop tendance à faire aujourd'hui.
Daniel Aldiman, justement, à ce propos, on parle souvent du Val-de-Ruz comme d'une cité dortoir. Il faut dynamiser cette région.
Alors, tout à fait. Alors, on est aussi clairement de l'avis qu'on doit amener des nouvelles sociétés dans la région. On doit amener des personnes donc, physiques et morales. Et si on veut redistribuer de l'argent par le biais des impôts aux personnes les plus pauvres et autres, il est clair que nous devons d'abord avoir de l'argent. On ne doit pas dépenser plus qu'on ne gagne. Et c'est la condition sine qua non pour nous.
Peut-être un mot pour terminer cette première partie, Daniel Aldiman, vous espérez quoi avec ces élections communales ? Vous espérez décrocher combien de sièges du côté de l'UDC ?
Alors on espère entre 5 et 6 sièges, ce qui représenterait environ 15%.
Même question pour le Parti libéral radical, Claude-Henri Chalère.
Écoutez, le PLR a la chance d'être la première force politique de la nouvelle commune. Nous espérons être également la première force politique au Conseil général.
Pour les Verts, Laurent Debrault, vous avez aussi des ambitions?
Aux dernières élections, on avait à peu près 13% des voix, ce qui représenterait environ 5 conseillers généraux.
Armand Blazer, même question pour conclure.
Oui, le Parti socialiste est apparenté ouvert dans ces élections. Et nous espérons bien sûr entre 35 et 38 candidats sur 41, si ça va.
Optimiste, non, alors, optimiste.
Si je vous donne une réponse plus sérieuse, ça devrait être quelque part entre 11 et 14.
Merci, on fait une petite pause pour reprendre nos esprits, reprendre nos marques et on accueille dans quelques minutes les trois autres candidats qui se présentent donc pour ces élections communales du 13 mai dans le Val-de-Rue, la commune fusionnée de Val-de-Rue.
Spéciale élection.
Nous sommes toujours en direct du restaurant de la Croisée à Malvilliers pour parler des élections communales du 13 mai à Val-de-Rue. Deuxième partie de ce débat avec trois autres candidats et toujours la possibilité pour le public de poser des questions. Tout d'abord, honneur aux dames, Marianne Desboeufs, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la seule représentante féminine, vous portez les couleurs du PDC, vous venez de Montmolin, vous avez 50 ans, vous avez 5 enfants, et vous êtes responsable management qualité, vous êtes active au sein du PDC depuis très très longtemps, et puis vous êtes d'abord dans le canton du Jura, et depuis 4 ans, vous êtes secrétaire du PDC Neuchâtelois. On est d'ailleurs ici dans la salle où s'est créé le PDC Neuchâtelois avec Doris Leuthard. Oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Les couleurs des jeunes libéraux radicaux sont défendues par Yann Villa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 30 ans, vous êtes marié, père de 2 enfants, vous êtes enseignant et vous avez siégé à l'exécutif de Cernier pendant 5 ans. Le groupe des indépendants de Val-de-Rue est représenté par Daniel Henry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller communal à Boudevilliers sous les couleurs de l'entente des intérêts de Boudevilliers. Président de l'association Région Val-de-Rue, vous avez 60 ans, vous êtes marié avec un enfant et vous êtes informaticien à la retraite. Alors peut-être de nouveau, mais très brièvement, Daniel Henry, comment vous voyez la commune de Val-de-Rue de demain?
Alors par rapport aux 15 localités actuelles, il y a donc un changement d'échelle. Je crois que là, les gens n'ont pas encore pris conscience exactement de cela. Ça veut dire que dans toute l'organisation de la commune, on va changer d'échelle.
Changement d'échelle, comment vous voyez la chose, Marianne Desbeux?
Pour moi, la commune sera plus influente dans le canton. Donc c'est important et j'aimerais que les citoyens de chaque village puissent avoir son mot à dire dans l'organisation future de la commune.
Importance aussi pour vous, Yann Villa, que les citoyens de chaque commune soient pris en considération et leur mot à dire?
Tout à fait. Déjà, via le Conseil Général, on a garanti pour les 4 premières années un siège par village. Ça sera le cas pour ces 4 premières années. Ce ne sera pas forcément le cas plus tard. Il faudra que les partis continuent de dialoguer avec la population au niveau local. Et l'influence vis-à-vis du canton, on en parle régulièrement, elle est très importante. Je crois que ce qui sera déterminant, c'est l'élection du Conseil communal. Et on doit mettre au Conseil communal des personnes qui sont capables de faire parler cette influence. Parce que c'est bien d'avoir 15 000 habitants, mais encore faut-il avoir les personnes qui sont suffisamment au fait de la politique communale et cantonale pour faire parler le poids de la commune. Et puis j'espère aussi une commune qui se préoccupe fortement de l'avenir énergétique. Cernier a commencé dans le Val-de-Rue à viser l'indépendance énergétique. Val-de-Rue pourrait prendre le relais.
Justement, Val-de-Rue, ça va être une très vaste commune. J'imagine que pour vous aussi, les transports sont un des points centraux. Comment le PDC voit l'avenir de ces transports dans le Val-de-Rue?
Alors, maintenant, il y a le projet de Transrun RER qui a été soumis aux partis politiques et que le gouvernement neuchâtelois aimerait soumettre au peuple en septembre. Pour ma part, j'estime que c'est beaucoup trop vite parce que les partis n'ont pas le temps d'étudier le dossier. Il y a beaucoup d'inconnus et j'aimerais que le gouvernement neuchâtelois reporte votation pour pouvoir étudier à fond ce dossier.
Étudier à fond ce dossier, on sait aussi que si on ne saute pas sur l'occasion, on risque de perdre des sous du côté des CFF. Daniel Henry, le Transrun, c'est quelque chose d'essentiel pour le Val-de-Rue?
Alors c'est clair que le jour J, c'est la révolution au Val-de-Rue, c'est-à-dire qu'il y a un ancien régime, de transport et qui sera remplacé par une nouvelle desserte. Alors, dans le rapport qui sera adressé au Grand Conseil, le Conseil d'État a également mis une étude sur la nouvelle desserte du Val-de-Ruz. Actuellement, il y a donc deux scénarios qui se profilent. Et je crois que la chose intéressante, c'est que la plupart des communes auront un bénéfice à utiliser le nouveau mode de transport. Bien sûr, il y aura toujours des perdants, il y a des gagnants, mais pour les perdants, peut-être c'est des fois une question de 10 minutes en plus. Je prends comme exemple, depuis les Genevay-sur-Cofrane à la Chaux-de-Fonds, actuellement la ligne est directe. Par la nouvelle desserte, il y aura forcément un transbordement et qui coûte du temps.
Du côté des jeunes libéraux radicaux, le Transrun, ça va être la solution ou comment vous voyez les choses?
Alors, les jeunes libéraux radicaux, comme le PLR et comme la plupart des partis, n'ont pas encore donné de mot d'ordre quant à ce Transrun, ne s'est pas prononcé formellement, donc je parle plutôt à titre personnel. Ce qui me déroge ici dans ce projet actuellement et au moment du vote qui s'approche très rapidement, c'est que le Val-de-Ruz résume à un point sur la carte, c'est Cernier. Le dernier gros article qu'on a eu la chance de lire dans les médias neuchâtelois, il y avait effectivement le point à Cernier, ce qui rassure évidemment les habitants de Cernier, ce qui ne peut que légitimement inquiéter les habitants des autres communes. Donc il faudra, si le Transrun se réalise, être vraiment bon dans la création de dessertes aux directions de Cernier, parce que si on a un train au quart d'heure à Cernier et un bus toutes les heures qui nous y amène, ça sert à rien. Donc il faudra vraiment gérer les dessertes locales si le Transrun se réalise. Et si le Transrun ne se réalise pas, je pense qu'il y a un certain nombre d'améliorations à faire dans les transports publics du Val-de-Ruz, mais elles ne sont pas forcément si énormes que certains veulent bien le laisser croire, parce que certaines communes qui deviendront des villages sont actuellement très mal desservies. C'est vrai que la Côtière, par exemple, est mal desservie. Cofrane n'a pas de bus le dimanche. Donc il y a effectivement des gros problèmes actuellement. Mais il y a aussi des communes, et il faut le noter, qui sont actuellement très bien desservies. Et puis je peux parler de celle où j'habite, à Fontaine. On ne peut pas se plaindre. Avec un bus tous les quarts d'heure en heure de pointe, un bus toutes les demi-heures dehors des heures de pointe, et direction Neuchâtel, on est vraiment très bien loti actuellement.
Commune unique dit aussi regroupement des forces, notamment dans la formation. Alors, du côté des jeunes libéraux radicaux, comment vous voyez la politique de la formation, tout ce qui est mis en place maintenant pour les structures d'accueil parascolaires, comment va se dessiner la commune de demain à vos yeux?
Je pense qu'il faut différencier la formation et donc l'école avec l'accueil parascolaire, même si les deux sujets sont évidemment très liés. Les écoles sont regroupés par le biais des cercles scolaires, et ça c'est au fait un des poteaux de la création de Val-de-Ruz. Je pense que le fait que Val-de-Ruz existe va simplifier les relations entre la commune et le cercle scolaire, mais le cercle scolaire aurait existé sans la création de Val-de-Ruz. Au niveau des structures d'accueil parascolaires, effectivement, différents villages ont mis en place des structures d'accueil. Fontaine en fait partie, et j'ai fait partie d'ailleurs du comité qui l'a mis en place. Je crois que ça va permettre de fédérer ces structures d'accueil, de les regrouper sous une direction commune, peut-être lié à l'école, peut-être un dépôt d'hôte de l'école, je pense que ça doit se discuter, et d'offrir ainsi plus de services à la population. Un des exemples qui revient régulièrement aussitôt, c'est l'accueil des enfants pendant les vacances scolaires. La plupart des structures d'accueil du Val-de-Ruz, toutes les structures d'accueil de Val-de-Ruz sont fermées pendant les vacances scolaires, ce qui pose des problèmes d'organisation pour les parents assez importantes, alors que le coût ne sera pas très élevé si les structures sont regroupées. Actuellement, pour une structure, c'est beaucoup trop cher d'ouvrir pendant les vacances scolaires et d'accueillir seulement quelques enfants. Mais lorsque Val-de-Ruz aura pu regrouper ses structures d'accueil, on pourra, sans gros investissements, offrir une permanence pendant les vacances scolaires où la demande est moindre.
Daniel Henry, ce regroupement des forces pour les petites communes, ça va être forcément un avantage dans ce domaine-là?
Oui, alors au niveau de l'accueil parascolaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aussi dans une région rurale, donc les besoins sont moins grands qu'en ville. Néanmoins, je crois qu'on est au début d'un processus pour l'instant. Les premières étapes de la constitution des structures d'accueil datent de l'année passée à Fontaine-Melon, à Fontaine... Et donc, ça va encore s'améliorer.
C'est donc une chance que vous entriez en fonction en 2013. Vous allez pouvoir mettre ça sur pied depuis la base.
Alors ça, ce sera la tâche du conseil communal, donc de l'exécutif. Moi, personnellement, je m'engage pour le Conseil général, mais on surveillera justement le Conseil communal dans sa planification dans ce domaine-là.
Pour le PDC, Marianne Desbeux, on sait que le PDC est très attaché à la famille. Alors, comment vous voyez l'évolution peut-être des crèches dans la nouvelle commune ?
Alors, moi, je lis les crèches donc, aux structures donc, parascolaires et je pense que ça doit être lié donc, au cercle scolaire donc, pour pouvoir avoir une unité, donc, une doctrine donc, qui tient la route. Mais j'aimerais aussi dire que bah, actuellement, donc, contrairement à ce que dit mon voisin, ce n'est pas du tout organisé donc, dans certaines communes et il y aura beaucoup, beaucoup à faire si on veut attirer des nouvelles familles donc, dans les villages qui ne sont pas au centre donc, de la nouvelle commune.
Alors justement, comment mettre sur pied ces structures sans faire exploser les budgets ?
Alors, ben moi, je vois, donc, j'ai un point qui me tient à cœur, c'est-à-dire le bénévolat. Et je trouve que dans cette nouvelle commune, il faudrait de nouveau développer un petit peu le bénévolat, c'est-à-dire le gardiennage d'une famille à l'autre, comme ça se fait donc, à certains endroits. Et je pense que si on donne tous un petit peu quelque chose, on peut aussi aider. Je crois qu'on veut faire le transrun, on parlera peut-être des hôpitaux qui coûtent cher. L'État ne pourra pas faire et on ne pourra pas mettre donc un coefficient donc de 61 si on veut développer donc en dépensant donc tout sur le canton ou sur la nouvelle commune.
Yann Villa, une commune qui fonctionne sur le bénévolat, c'est quelque chose de réaliste ?
C'est quelque chose de très utopique en tout cas, mais je pense que gérer l'accueil parascolaire des enfants par le bénévolat, c'est sympathique, mais ça peut pas fonctionner à très large échelle. Pour rebondir sur l'accueil parascolaire des enfants, je pense qu'il faudra aussi se préoccuper, et le nouveau directeur de la Fontenelle d'ailleurs, a déjà pris les choses en main. Il faudra se préoccuper de l'accueil parascolaire, moindre bien sûr, des plus gros et des adolescents, parce qu'actuellement, on a quand même passablement d'adolescents qui se retrouvent à midi laissés à eux-mêmes ou à 15h30 laissés à eux-mêmes. Et je pense que si on s'occupe bien des enfants jusqu'à la fin de l'actuelle 8e année Hermos, les 9e, 10e et 11e années ne doivent pas être totalement ignorées. Alors bien sûr, pour la commune, ça ne veut pas dire de mettre en place des structures qui les gardent et qui les pouponnent, mais des structures de soutenir, par exemple, des structures privées qui mettent en place des activités pour occuper de façon intelligente les jeunes à la sortie de l'école.
Bénévolat, Daniel Henry, c'est utopique ou pas ? Et puis, est-ce que vraiment il faudra faire un effort pour les adolescents ?
Non seulement pour les adolescents, mais aussi pour les seniors. Donc, dans notre programme, nous avons axé sur la politique intergénérationnelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il faut penser à toutes les générations des habitants du Val-de-Ruz.
Question dans le public ? Personne ne veut réagir. Peut-être l'aménagement du territoire, ça va aussi être un gros dossier hein, pour la nouvelle commune. Marianne Desbeux, comment est-ce qu'on va pouvoir aménager ce territoire ? Actuellement, eh bien, il y a 15 communes avec des règlements différents. Alors, comment contenter tout le monde ?
Alors, je pense qu'il faut déjà relier donc, toutes les communes, parce que pour le moment, elles n'y sont pas. Et puis, je pense donc, qu'il doit y avoir un service d'aménagement du territoire donc, communal qui doit être fort, où il doit y avoir des réflexions qui doivent être menées pour pouvoir économiser donc, de l'argent pour qu'il n'y ait pas de doublons.
Daniel Henry, vous, l'aménagement du territoire, comment on va pouvoir faire pour contenter tout le monde ?
Oui, je crois que ça, c'est vraiment le gros défi de la nouvelle commune de Val-de-Ruz, l'aménagement du territoire. Avant, nous étions dispersés et maintenant, nous sommes réunis. Donc, ça va influencer toute la politique des zones à bâtir. Et donc, là, le nouveau conseil communal devra faire un plan de législature, peut-être même sur deux législatures, pour vraiment construire tout d'abord le plan directeur qui sous-entend l'aménagement du territoire.
Du côté des jeunes libéraux radicaux, l'aménagement du territoire, j'imagine, c'est aussi un thème qui vous, peut-être pas préoccupe, mais en tout cas qui vous occupe.
Oui, bah, je pense qu'on peut séparer ce dossier aux deux parties. Il y a les grandes lignes de l'aménagement et là, il y a évidemment des défis pour créer un plan directeur de l'aménagement à l'échelle du Val-de-Ruz, alors qu'on a actuellement 15 plans d'aménagement locaux. Il y a aussi l'aménagement du territoire au quotidien avec simplement l'octroi de permis de construire ou ce type de procédure. Et là, il faudra, je pense, s'interroger de savoir si on revendique la possibilité de gérer nous-mêmes nos permis de construire à l'instar des deux villes. J'avoue que je ne sais pas si Val de Travers le fait lui-même ou pas, ou si on laisse cette option au canton. Actuellement, c'est un sujet de discorde très courant entre communes et canton lorsqu'on a des relations avec le service de l'aménagement du territoire. Et là, je crois que le poids de Val de Rue va permettre d'avoir des relations, j'espère, plus d'égal à égal.
Donc on parle aménagement du territoire, on parle aussi implantation de nouvelles entreprises. Il faut absolument faire venir de nouveaux habitants dans cette commune, Marianne Desbeux.
Oui, tout à fait. Donc il faut vraiment aménager des zones industrielles qui soient tiennent compte de l'écologie, et puis aménager des zones de villas ou des zones d'appartements qui soient bien déterminées par rapport aux zones industrielles.
Daniel Henry, pour maintenir le coefficient fiscal à 61, il faut absolument attirer de nouveaux citoyens. Où est-ce qu'on peut s'en sortir comme c'est actuellement ?
Alors, le taux fiscal de 61, c'est le résultat de notre budget prévisionnel. Bien sûr, il faut tendre à le maintenir, ce taux fiscal, mais on aura certainement des pressions de l'État qui tendront à vouloir le rehausser. Donc, tout le défi de la nouvelle commune, c'est de vouloir... gérer au mieux la commune pour pouvoir maintenir le plus possible ce taux.
Donc justement, Yann Villa, quand on parlait d'aménagement du territoire, vous avez dit qu'il ne faut pas oublier la politique énergétique qui en fait également partie. Comment vous envisagez justement, vous, la politique énergétique dans le Val-de-Ru demain, ces prochaines années ?
Alors la liste Jeunes Libéraux Radicaux est très intéressée par la politique énergétique. Je pense que c'est... Pour une liste jeune, c'est notre avenir dont on parle, c'est l'avenir de tous, mais en particulier des plus jeunes. Et on se rend bien compte que la politique actuelle, la façon actuelle d'utiliser l'énergie va arriver dans ses limites. Donc il faut absolument pousser aux énergies renouvelables, au niveau par exemple du solaire. Je pense qu'on pourrait simplifier encore, même si elles ont été simplifiées, les conditions d'octroi de permis de construire pour les privés. Je rêverais même, c'est de la politique cantonale, qu'on puisse poser un panneau solaire sur son toit sans demander de permis de construire, peut-être à l'exception de certains endroits particulièrement protégés du canton, mais dans une zone de villa d'une commune quelconque du Val-de-Ru ou de la commune de Val-de-Ru, on devrait pouvoir faire ça sans avoir à remplir de formalités administratives.
Arriver en fin de compte à être autonome, Val-de-Ru pourrait devenir une commune autonome au niveau de l'énergie ?
100% autonome, je ne suis pas habilité à donner une réponse. Je n'ai pas suffisamment de connaissances sur la matière, mais je pense qu'on doit viser à un maximum d'autonomie.
Daniel Henry, sur cette question, vous partagez l'avis de votre collègue.
Oui, je peux même amener des précisions. C'est que l'association Région était porteuse du contrat Région qui était signé avec l'État. Et dans ce contrat Région, il y avait donc une mesure qui était l'autonomie énergétique du Val-de-Ru, qui elle-même était constituée d'à peu près 18 mesures. Et là-dedans, il y avait le projet éolien sur le Mont-Perreux. Il y avait aussi... toutes les démarches concernant le solaire. Et donc l'association Région avait travaillé pour mettre un pont entre le propriétaire et puis EVZ pour réaliser des surfaces solaires sur les toits du Val-de-Ru. Ça a été une expérience enrichissante, mais ce n'est qu'un début, c'est une petite gouttelette dans l'eau de l'océan. Il faut vraiment faire plus, et je pense que dans le programme de législature, on veillera à ce que l'autonomie énergétique soit un des points centraux.
Justement, cet océan, il pourrait se concrétiser comment ?
Alors, si vous prenez de l'altitude, vous allez à la gare des Hauts-Genevais, puis vous voyez le Val-de-Ru, vous voyez plein de toits qui sont à disposition, qui sont bien orientés face au soleil. Et c'est des endroits rêvés pour mettre une installation solaire.
Les panneaux solaires, c'est aussi quelque chose qui vous branche, Marianne Nebeu?
Oui, tout à fait. Donc, par contre, il y a quelque chose qui ne me branche pas du tout, donc c'est les centrales à gaz. Donc, du coup, donc, je peux affirmer que je suis absolument donc, pour les panneaux solaires. Donc, le centre des places éoliennes, si c'est possible, dans notre commune. Mais alors, donc, absolument défavorable donc, à la centrale à gaz.
Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de centrale à gaz pour l'instant qui est encore prévue.
Non, mais il ne faudrait pas que
vous vous battriez.
Je me battrai pour ça, contre ça.
On arrive au terme de ce débat. Même question que pour vos prédécesseurs, Daniel Henry, le groupe des indépendants de Val-de-Ru. Pronostic, en tout cas, vous espérez conquérir combien de sièges?
Alors, avec nos 12 candidats, nous espérons entre 6 et 8 sièges au Conseil général.
On a une question du côté du public, peut-être juste avant de clore.
Oui, alors Jean-Laurent Maté, liste PLR. Une petite question, peut-être plus pratique, particulièrement à M. Debrot. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir les parcs éoliens qui seraient en projet actuellement afin d'arriver à cette autonomie dont tout le monde parle?
Oui, fermement, oui.
Merci.
La réponse est brève et très claire. Marianne Nebeu, pour conclure, du côté du PDC... des ambitions, on espère cette fois pouvoir entrer dans un...
Tout à fait, donc dans un législatif, et donc nous espérons donc 2 sièges.
Du côté des jeunes libéraux radicaux, vos ambitions pour ces communales du 13 mai?
Du côté du Parti libéral radical, au 21 et 25 sièges, avec, j'espère, entre 2 et 5 jeunes en tout cas.
Nous arrivons au terme de ce débat. Merci à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à Yves, à la technique, à Steve en studio, à Fabio qui m'a secondé pour ce débat, à Vincent Costet qui est venu mettre sa patte avec sa caméra. Merci également au restaurant de la Croisée de nous avoir accueillis. Pour en savoir plus sur ces élections communales du 13 mai, vous pouvez aller sur le site rtn.ch sous l'onglet élections. Vous trouverez dès demain ce débat. Vous pouvez également réentendre le débat sur la commune de Millevignes et tous les invités que nous recevrons dans la matinale. RTN va aussi vous faire vivre bien évidemment ces élections en direct le 13 mai avec des studios décentralisés dans tous les districts du canton pour suivre les résultats et les commenter. Bonne soirée à tous.